Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
Réseau à la une.
Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage et diagnostic des enseignes.
Bonjour et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du réseau à la une. Je suis Camille Boulat, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Bonjour Sylvain.
Bonjour Camille.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast.
Merci d'être parmi nous pour ce nouveau numéro. Alors Sylvain, avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Fischer, directeur du développement chez EasyCash. L'enseigne spécialisée dans l'achat-revente de produits d'occasion a vu le jour au début des années 2000 et est devenue un acteur majeur de ce marché. Avec plus de 120 magasins répartis sur tout le territoire, EasyCash compte encore se développer, mais mise sur un développement mesuré. Le réseau s'est prêté au jeu de notre rubrique pour le numéro de juin 2021. Bonjour Kevin.
Bonjour Camille.
Merci de nous avoir rejoints. Alors pour commencer, je vais donner la parole à Sylvain. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la notation d'EasyCash et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques de l'enseigne ?
Alors l'évaluation de la documentation juridique d'EasyCash est à 61% à travers le diagnostic, 67% pour le DIP et 55% pour le contrat. Ce qu'on constate, c'est que les documents respectent globalement le cadre légal. Mais on est resté en fait sur des documents juridiques qui se contentent de faire, on va dire, le strict minimum sur le plan juridique, notamment sur le DIP et sur le contrat, on le verra aussi. Et quelque part, on trouve une documentation juridique qui commence à être en décalage avec la taille du réseau et puis le fait que c'est quand même un des réseaux leaders de son marché, ce qu'on ne retrouve pas en fait dans cette architecture juridique. Donc c'est un peu dommage parce que plus un réseau est développé, plus on est nombreux, plus les détails ont leur importance. Et là, il y a des points de détail qui méritent d'être revus et améliorés.
Alors justement, vous expliquez que les documents qui vous ont été remis sont perfectibles et notamment le DIP qui mériterait d'être amélioré en rendant certaines informations plus accessibles et lisibles. Donc c'est ce que vous disiez. Pouvez-vous détailler davantage votre propos et donner quelques pistes d'amélioration ?
Oui, alors on a un DIP encore une fois qui est sur le plan juridique, il n'y a pas de gros soucis majeurs. Il y a un souci sur l'état général du marché qu'il s'agira de corriger, mais il me semble qu'il est remis séparément. Donc on ne le voit pas dans le DIP, donc on n'a pas pu l'apprécier en tant que tel. Mais après, on a une superposition d'informations qui répondent en fait au décret d'application de la loi Dubin. Mais si je me place d'un point de vue candidat à la franchise, j'ai du mal à trouver la cohérence en fait et à retrouver un alignement entre le DIP et la marque EasyCash et l'enseigne. Donc tout ce qui relève de l'historique, du profil qu'un franchisé doit avoir pour réussir dans l'enseigne, tous ces éléments-là ne sont pas lisibles dans le DIP, ce qui est un peu dommage parce que c'est un document de synthèse extrêmement important dans la décision prise par le candidat, qui doit synthétiser les échanges qui ont eu lieu avec le franchiseur. Et là, on ne retrouve pas ça et on ne retrouve pas en fait le fil conducteur, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Dommage, c'est un manque de lisibilité, je dirais.
Kevin Fischer, est-ce que vous souhaitez réagir à ce que vient d'exposer et de détailler Sylvain Bartholomeu ?
Alors oui, bien sûr. Alors merci d'abord, Sylvain, d'avoir fait ce travail. C'est toujours enrichissant, je ne le dis pas que par politesse, mais c'est toujours enrichissant d'avoir, je dirais, un avis un peu extérieur. Là où vous avez tout à fait raison, c'est que EasyCash est un réseau, je dirais, qui a une vingtaine d'années, mais qui pour autant a grandi assez rapidement, notamment sur les dernières années. Le nombre de collaborateurs au siège a triplé en l'espace de quelques années. Alors, il y a un marché qui explose, il y a un nombre de magasins, évidemment, qui grandit. Et puis, même au-delà de tout cela, il y a le domaine de la franchise au sens très général qui devient aussi un modèle, j'allais dire, d'exploitation, un modèle d'accompagnement de nombreux entrepreneurs. Tout ça confondu fait que On est dans une stratégie de croissance et parfois la croissance, elle laisse un peu derrière soi l'aspect juridique, pratique, comptable, structurel, tout ce qu'on veut. Donc, sur l'aspect juridique, on devrait un jour, je l'espère, avoir un service juridique et administratif, ce qui n'est pas trop le cas. Donc, pour l'instant, c'est de l'ajustement du DIP en fonction des connaissances de chacun. Un tout petit point sur l'état de marché qui est remis, en effet, à côté du DIP et qui est fait par un intermédiaire que vous connaissez sans doute qui est Territory Marketing avec un logiciel Easy Retail. Ça, c'est un document qui est chiffré assez complet. Et puis, pour la lisibilité, je dirais que on a toujours fonctionné sur un aspect très humain. EasyCash est un réseau qui, quelque part, est avant tout un réseau d'entrepreneurs propriétaire de magasin, à la différence de certains réseaux qui se créent en franchise assez rapidement. Là, c'est un réseau qui a avant tout été composé d'entrepreneurs qui ont créé une franchise comme support finalement à une exploitation terrain. Et ça, c'est un historique qui est important à connaître parce que ça amène toute la culture d'entreprise, c'est-à-dire celle de mettre l'humain, de mettre les échanges, les conversations, les mails, les rencontres au cœur d'un processus d'intégration. Donc, quand vous disiez tout à l'heure que le DIP vient un petit peu synthétiser, donner des informations, être lisible, je l'entends tout à fait sur un réseau qui s'industrialise un petit peu, ce qui devrait peut-être être notre cas dans l'avenir, mais aujourd'hui, on est encore sur un fonctionnement très humain. On va proposer des rendez-vous, on va demander à des candidats d'aller en immersion au magasin, et c'est là, quelque part, où ils vont avoir le cœur des informations. Alors, ça viendra un peu compenser le DIP, je dirais. C'est l'explication, voilà.
Alors, Sylvain, sur le contrat, vous estimez qu'il se positionne en dessous des usages et qu'il mérite une importante mise à jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quels aspects en particulier ?
Sans rentrer dans le détail des clauses, mais je pense qu'on partage le point de vue avec Kevin. En fait, on a une documentation juridique qui arrive un peu en fin de course. Et comme il le dit très justement, l'enseigne doit rentrer dans une phase un peu plus industrielle de précision. Et ça se ressent, en fait. Ça se ressent dans le DIP, ça se ressent dans le contrat. Encore une fois, l'architecture du contrat, elle n'est pas à remettre en cause. Mais en fait, il y a du sens du détail. On a une clause, par exemple, sur Internet. On parle de commission e-commerce, mais on n'a rien sur les réseaux sociaux. Or, la partie réseaux sociaux prend énormément d'importance aujourd'hui et se contractualise. Donc, en fait, c'est de l'actualisation de clauses, notamment, et de l'enrichissement de clauses qui sont importantes. Il y a l'article 14 sur la résiliation anticipée qui est assez simpliste et qui mériterait d'être beaucoup plus détaillé sur les raisons et les causes de résiliation anticipée. Il y a plein de petits éléments qui font se dire que finalement, le contrat a quelques années, il n'a pas été challengé, retravaillé. Encore une fois, il est juridiquement valable, mais il laisse des zones d'imprécision. Quand on est 40, 50 dans un réseau, ça passe. Quand on commence à être plus d'une centaine, c'est-à-dire faire partie des top players dans la franchise, on ne peut plus se le permettre, quoi. Donc, c'est un sujet en fait, qu'on retrouve dans le contrat et qu'on retrouve dans son corollaire qu'est le DIP, où là, les détails ont toute leur importance pour convaincre les candidats, mais aussi pour avoir une relation, on va dire, plus simple et plus accélérée, parce qu'on va pouvoir passer moins de temps aussi dans la relation avec les franchisés, de par le nombre. Donc, il faut que les choses soient écrites, en fait. La relation orale, elle a ses limites dans un réseau, c'est normal. Quand le réseau commence à être très important, on est obligé de remplacer l'oral qui est de facto informel, imprécis, répété à chaque fois, donc différemment, par des éléments qui sont écrits, tangibles, et qui peuvent être, eux, répliqués plus facilement, quoi.
Kevin, lorsque nous avions échangé, vous m'aviez confié avoir conscience que vos documents juridiques comportaient certaines défaillances et qu'un nouveau contrat de franchise était en préparation. Est-ce que vous pouvez nous préciser si ce contrat prendra en compte certaines des remarques développées par Franchise Management dans le cadre de la rubrique et quand celui-ci sera-t-il applicable et appliqué ?
Oui, alors en effet, on avait évoqué ce sujet-là. Je vous avais précisé qu'on était en phase de refonte du contrat. Quand j'évoque le fait que nous n'ayons pas de partenariat juridique, on travaille quand même avec des conseils qui sont des prestataires externes, mais je dirais qu'on n'a pas une organisation en interne qui vise véritablement à faire évoluer le contrat, parce que la vraie réponse qu'il nous faudra apporter, et dans un temps court, ce sera celle d'avoir la structure en interne qui permette non pas de remettre un contrat à jour tous les 8 ans, 6 ans ou X années, mais finalement de le faire évoluer au gré des évolutions, qu'elles soient techniques, juridiques et autres. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait, j'allais presque dire, quand quelqu'un a le temps. Hein. Alors, ce quelqu'un aujourd'hui, c'est un peu moi, un peu l'admin. On fait les choses comme cela. C'est un aveu de faiblesse. La refonte du contrat, elle arrive. Elle arrivera cette année parce qu'il y a aussi une refonte qui intervient sur l'aspect financier, notamment. Le digital, Sylvain en a parlé à très juste titre. C'est vrai que je parlais tout à l'heure des collaborateurs au siège qui ont triplé. Le principal facteur, c'est la digitalisation du métier, c'est les réseaux sociaux, c'est les outils informatiques, les outils de place de marché et tout autre moyen, finalement, de multicanal qu'on utilise aujourd'hui. Donc, tout ça, finalement, en un, c'est l'affaire opérationnelle, l'affaire du marché, et puis ensuite, il en découle l'aspect juridique et contractuel. Donc ça arrive. Et un autre élément, peut-être aussi, qui vient ajouter, j'allais dire une excuse, hein, je vais vous faire une liste d'excuses, non pas d'explications, mais en tout cas de compréhension. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un réseau qui fonctionne bien, et d'ailleurs, l'aspect... factuel le montre, on a quasiment aucune fermeture en 20 ans, ce qui veut dire aussi qu'on n'a aucun conflit, on n'a aucune résiliation anticipée. Alors on en a peut-être sur les 20 ans, moi évidemment je ne suis pas là depuis 20 ans, mais en tout cas sur le court terme, les dernières années, il y a très peu de conflits, et de manière un peu, j'allais dire presque malsaine, on a tendance à se dire qu'on va bosser le juridique quand on commence à avoir un gros réseau et parfois des gens qui viennent titiller les faiblesses d'un contrat. Aujourd'hui, et tant mieux, aujourd'hui on a un réseau qui se porte bien, des franchisés qui sont globalement satisfaits de la culture et de la manière dont ça fonctionne. Donc on ne se retrouve pas finalement contraint de mettre le côté juridique dans l'urgence. Pour autant, il ne faut pas attendre d'être au pied du mur pour avoir à le faire, donc on va quand même le faire, aussi bien d'ailleurs pour le franchisé, pour qu'il connaisse un petit peu ses conditions, et puis pour nous aussi, parce que le nombre fait que va falloir qu'on homogénéise un petit peu, et que, comme le disait tout à l'heure, alors le mot industrialisation est toujours un peu connoté, parce que ça veut dire que par définition, on sort de l'humain et on sort de la personnalisation, on sort du cas par cas et de l'accompagnement, donc on va essayer de ne pas lâcher ça quand même, mais à minima, avoir quand même quelque chose de cadré, d'organisé pour que ce soit efficace. Quoi. Voilà.
Vous parliez de refonte sur l'aspect financier, j'imagine que vous faites allusion au changement de calcul de la redevance dont on a évoqué lors de l'interview. Est-ce que vous pouvez préciser concrètement ce qui va changer et quand est-ce que ça sera également appliqué ?
Oui et non. Il existe en fait une nouvelle... manière aujourd'hui, il va exister une nouvelle manière de calculer la redevance avec un changement qui va être structurel, c'est-à-dire qu'il ne sera plus basé sur le chiffre d'affaires, mais basé sur la marge. On a un métier qui est assez spécifique, avec de la TVA sur marge, avec en fait la valeur ajoutée de notre métier, c'est d'acheter des produits d'occasion, donc avec une certaine valeur, que l'on revend, par définition aussi, de seconde main. Donc on a, je dirais, un focus fort sur la notion de valeur ajoutée et de marge. Et nos métiers, en tout cas la manière dont on le pense et on le produit, est un métier qui tend vers du moyen haut de gamme. On va dire moyen pour rester général. Ce qui veut dire que plus on monte en termes de valeur sur des produits, et plus le delta de marge en valeur absolue est faible. Hein, évidemment, si vous vendez une grosse pièce de bijouterie, par définition, votre valeur absolue en termes de marge est plus importante par rapport au prix que sur un DVD à 50 centimes sur lequel vous vendez peut-être 1,50€. Donc, ce que je veux dire, c'est que plus on monte en gamme et plus l'impact de différencier la redevance sur le chiffre d'affaires versus sur la marge est importante. Donc ça, c'est un gros changement qu'on n'a pas fait seul. Donc, on a proposé au réseau, et là, je viens à l'aspect... un peu plus concret de où on en est aujourd'hui, c'est que cette proposition a été faite en juin à l'ensemble du réseau au travers de commissions, et nous sommes aujourd'hui en discussion, pour pas dire en négociation, mais on est en échange en tout cas entre des commissions de franchisés, même des franchisés individuels, qui nous donnent leur retour pour essayer de trouver la solution idoine à mettre en place sur cet aspect de redevance. Ça se traduit autant sur un montant, c'est-à-dire quel est le niveau exact de pourcentage auquel il faut fixer la chose, et puis ça se traduit aussi en termes d'application, c'est-à-dire on-off, c'est applicable dès lors qu'on le décide, quid de ceux qui sont rentrés dans le réseau il y a peu, quid de ceux qui sont là il y a plus longtemps. Donc il y a un accompagnement à faire, et j'en reviens à la notion de culture, on est un réseau qui attache beaucoup d'importance à l'humain et au côté commerçant, donc on ne fait pas forcément les choses en appuyant sur un bouton et en disant il y a un avant, un après. Donc, ces notions d'arbitrage un petit peu pour essayer que il n'y ait pas de laisser pour compte, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Donc, ça devrait s'installer janvier. On se donne comme objectif janvier pour remettre en place cette redevance. En termes de coûts, globalement, et je finis là-dessus, à peu de choses près, ça revient sensiblement au même. Hein, c'est-à-dire que en termes de charges, pour les franchisés au sens général, ça revient sensiblement au même de payer X% sur leur chiffre d'affaires versus X% sur la marge telle qu'on l'a définie. Pour autant, sur 120, bah, y en a qui sont un peu au-dessus de la barre, ceux qui sont en dessous, et c'est là où il faut essayer de satisfaire un peu tout le monde.
Sylvain, est-ce que c'est courant de voir ce type d'évolution dans les réseaux, de voir évoluer le calcul de la redevance ?
Ouais, c'est de plus en plus fréquent parce qu'en fait, les métiers changent. Mmh. Évolue. Donc, par exemple, quand on voit la restauration avec les plateformes de livraison qui impactent la marge, hein, parce que parfois vous payez 20% de commission en fait sur une vente livrée par Deliveroo ou Uber Eats, vous vous retrouvez en fait à devoir vous poser la question de est-ce que le franchisé doit payer deux fois la même redevance, quoi. Donc ça pose des vrais problèmes. Donc la restauration est impactée. Les métiers des industriels aussi sont impactés parce que parfois le magasin en fait change de positionnement, l'offre change. Donc effectivement, est-ce qu'on indice sur le chiffre d'affaires? Est-ce qu'on indice sur la marge? Est-ce qu'on indice sur la globalité du chiffre d'affaires? Moi je l'ai vécu plusieurs fois en fait. Je l'ai vécu avec des franchisés en commission. Et effectivement, là où je rejoins Kevin, c'est que c'est des sujets qui sont extrêmement lourds à traiter et qui vont en fait faire osciller le balancier entre l'équilibre, l'intérêt individuel et l'intérêt général. Mmh. On est dans l'intérêt général tant que ça ne nous impacte pas, mais parfois pour certains franchisés que ça impacte, bah là, il y a l'intérêt individuel qui rejaillit très vite avec bah, moi, je vais devoir payer plus cher alors que je payais moins avant. D'accord. Donc ça pose des vrais sujets en fait.
Aussi, l'un des grands axes stratégiques pour EasyCash, Kevin Fischer, vous me disiez que c'était le développement d'Everso, votre nouvelle enseigne. Alors, vous parliez de produits moyens haut de gamme. L'enseigne s'oriente vers cette dimension. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'historique de ce concept et votre volonté ?
Oui, alors Everso, c'est né dans la tête de l'un des administrateurs aujourd'hui EasyCash, un des fondateurs, qui... face un peu à une problématique de centre-ville. La genèse de ce projet, c'est le centre-ville parisien. On n'était pas présent en centre-ville parisien. On était présent dans quelques magasins EasyCash de centre-ville, à Lyon, à Nantes, à Rennes et autres, mais on n'avait pas de magasin au cœur de Paris. Et la réflexion s'est posée de se dire, est-ce qu'on le continue finalement à implanter des magasins EasyCash compressés dans 100 mètres carrés, comme on l'a fait un petit peu dans les autres métropoles, mais avec simplement donc, une duplication du modèle, mais rétréci dans 100 mètres carrés. Ça peut être une idée. Ou bien, on repense complètement la chose et on se dit, quel est aujourd'hui le concept store qui vient répondre à une clientèle urbaine, a fortiori parisienne, mais qu'on pourrait dupliquer ensuite dans les grandes métropoles, et qui vise véritablement à se différencier d'un modèle de périphérie qui serait à Reims, à Dijon ou ailleurs. Donc c'est cette page blanche-là qui a été d'abord à l'origine de ce concept. Et donc il en découle tout un tas d'éléments qui sont relatifs à ce que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la RSE, l'aspect éco-responsable, l'aspect moyen haut de gamme, je l'évoquais, l'aspect ultra-service, donc du personnel en magasin qui vient apporter de la qualité de service, des éléments de réassurance qui sont d'autant plus nécessaires quand on commence à produire une gamme assez importante ou des produits qui nécessitent une compétence et une réassurance. Donc Ça, c'est la genèse un petit peu d'Everso. Donc, ça se traduit comment ? Ça se traduit par, évidemment, un nouveau nom, parce qu'il fallait essayer de sortir un petit peu de l'ornière qui a fait notre succès, mais qui aujourd'hui peut être parfois connotée de manière un peu négative. C'est le monde du cash, au sens très général du terme. Donc, aujourd'hui, bah, on voit bien qu'il y a toute une part de la clientèle qui n'est pas forcément enclin à passer la porte de nos magasins de par ce nom commercial, cette connotation-là, puisque le métier, comme l'a dit Sylvain, a énormément changé et ben forcément, chaque client ne se met pas forcément à jour de l'évolution. Hein. Donc voilà, il fallait changer un petit peu de nom, il fallait changer de plateforme de marque. Donc ça demande des nouvelles couleurs, ça demande du nouveau mobilier, ça demande tout un tas de nouveaux services. Et puis bon, je ne vais pas vous donner après tout le détail qui en découle. Ça, c'est ce qu'on voit en surface, mais après, il y a toute une expérience client qui change. Donc ça, c'est ce qu'on a tenté de mettre en place pour un premier magasin qui s'est implanté dans le quartier Châtelet à Paris. Qui a ouvert, alors, entre les ouvertures, fermetures hein, diverses, c'est ouvrir les voiles en pleine tempête, hein, mais on y allait quand même. Donc on était prêt début d'année, on a repoussé, au final on a ouvert fin mai avec la réouverture des magasins. Et puis l'opportunité un petit peu immobilière fait qu'on a pu ouvrir deux autres magasins concomitamment, un autre magasin, donc Everso à Bordeaux, là où est notre siège social et sur une implantation là aussi très premium en centre-ville. Et un troisième magasin qui a ouvert à Vandenheim, donc qui est la zone nord de Strasbourg, qui est une grosse zone, et sur lequel s'est créée une shopping promenade, comme l'appellent aujourd'hui les grosses foncières, c'est-à-dire que ce sont des centres-villes un petit peu reconstruits en périphérie de ville, avec là aussi une démarche un peu d'entertainment, hein, avec une activité, une dynamique qui laisse à penser qu'on est dans un cœur de ville. Donc ça aussi, c'est une implantation qu'on a réalisée dans le même timing, hein, sur mai. Et puis, on a un tout dernier projet qui est en cours de travaux à Nice. Voilà. Donc, on a quatre projets Everso aujourd'hui qui sont en test, qui sont portés par la franchise, puisque le franchiseur se doit de réaliser des tests, hein, évidemment, et pas le faire porter par ses franchisés. Donc, on est aujourd'hui sur la succursale, sur ces quatre boutiques, avec ce positionnement, et en découle des ajustements un petit peu quotidiens, puisqu'on est sur un marché physique très particulier, où dans un même environnement, sous un même toit, on va proposer à la fois du luxe, donc maroquinerie, bijouterie, horlogerie, et à l'opposé, du high-tech, par exemple. Alors, on arrête les DVD et ce genre de produits, évidemment, hein, mais de l'high-tech, de la téléphonie, il faut qu'on réussisse à faire cohabiter dans une expérience client ces deux produits qui, globalement, n'ont pas grand-chose à voir. Donc, si ce n'est notre expertise de l'occasion haut de gamme. Voilà. Donc ça s'ajuste un D'accord. petit peu au fur et à mesure.
Alors, lors de la rédaction de l'article pour la parution print de notre interview, les franchisés que j'ai interrogés ont déploré le fait d'avoir été un peu mis devant le fait accompli lorsque vous leur avez présenté ce nouveau concept. Alors, quelle est la stratégie pour EasyCash ? Est-ce que votre volonté est à terme de transformer l'ensemble des points de vente en Everso ou c'est pas encore acté ?
Non, bah alors, il y a aujourd'hui la stratégie, j'en reviens encore une fois à ce fil rouge qui est la culture commerçant. Un commerçant, il teste. Mmh. Un commerçant, il lance un concept sur le terrain, en direct avec ses clients, il voit comment réagissent ses clients et il voit comment il ajuste. Je dirais que c'est pas... Alors, il n'y a pas d'opposition fondamentale, mais je dirais que c'est des cultures d'entreprise différentes. C'est pas quelqu'un qui va... faire des études à n'en plus finir dans un bureau et puis ensuite se dire on verra bien. Là, on est sur une phase, clairement, une phase de test. Donc, en effet, on a annoncé lors d'une convention qui était début 2020, que je ne me trompe pas dans les dates, mais c'était une convention annuelle donc de début 2020, avant cette période de confinement. Alors, on a annoncé avec tout l'optimisme d'une personne n'ayant jamais connu de pandémie mondiale, hein, évidemment. On a annoncé une création de ce concept-là avec ces ouvertures de test. On s'est laissé à penser, vous avez tout à fait raison par rapport aux franchisés que vous avez interrogés, on s'est laissé à penser que ce modèle, s'il venait à fonctionner, ce qu'on espère, pourrait peut-être un jour venir remplacer certains tous des magasins qu'on a dans le réseau. Maintenant, aujourd'hui, il s'est passé quasiment un an et demi, donc évidemment, il y a eu du retard. On est sur une phase de test aujourd'hui qu'on essaie aussi de nuancer un petit peu, parce que une phase de test en période de sortie de confinement, c'est aussi difficile à analyser. Donc, on fait les choses au mieux pour avoir une vérité. Et à votre question, est-ce que demain, Everso viendra remplacer le réseau EasyCash ? C'est absolument pas arbitré, puisque tout va dépendre un petit peu du positionnement final sur lequel se place Everso. Aujourd'hui, on a une volonté de le placer sur, je vous le disais, un secteur moyen haut de gamme. Mm-hmm. Bon, il y a des franchisés que vous avez interviewés qui sont à Alès, qui sont dans la province tout au nord de Saint-Étienne. Et sans leur faire offense, ce n'est pas les premiers magasins aujourd'hui qui vont avoir une clientèle très urbaine et positionnée sur le haut de gamme. Donc, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de forcément transformer ce type de magasin-là. Si vous aviez passé un coup de fil au franchisé qui est à Bordeaux, dans une agglomération de la ville ou sur d'autres grosses métropoles, peut-être qu'il y aurait vu un intérêt aussi. Mmh. Donc là, ce sera à nous et aux franchisés, puisque ce sera aussi de la discussion, de voir un petit peu ce qui est le mieux, en essayant, si deux marques venaient à perdurer, évidemment, il faudra bien différencier dans l'esprit du client quel est le positionnement de l'une, quel est le positionnement de l'autre, si les deux marques venaient à perdurer.
Sylvain, quelle est selon vous la bonne stratégie ? Est-ce que vous avez un peu des exemples d'enseignes qui ont comme ça lancé un nouveau concept sous un autre nom ? Et quelle est pour vous la bonne stratégie ? Est-ce qu'il faut faire disparaître la première enseigne ? Voilà, quel conseil vous donneriez sur le long terme ?
Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire par rapport à ça. Déjà, il y a le sens d'un marché en fait, qui évolue. On voit bien que le marché de la seconde main est un marché qui évolue, qui était un marché plutôt lié au prix, au pouvoir d'achat, on va le dire comme ça, et qui est en train d'évoluer vers l'économie de la seconde main en général, l'écologie, etc. Mm-hmm. Donc, c'est un marché qui est en train d'évoluer. Donc, sur le papier, ça a plein de sens, en fait. Hein. Après, on le voit, nous, quotidiennement, dans les opérations de rachat de concurrents ou dans les opérations de création de marques. Ce qui a été écrit sur le papier au départ n'est pas nécessairement ce qui arrive 3-4 ans après. On peut avoir une stratégie de remplacer une marque et de se rendre compte au bout de 2-3 ans que finalement, les deux peuvent cohabiter très bien ensemble. Mmh. Ça arrive. On peut avoir l'objectif de faire cohabiter deux marques et de se rendre compte qu'il y en a une qui mange l'autre. Et ça, en fait, c'est des éléments à horizon 4-5 ans, qu'on ne peut pas prévoir, en fait, parce que le marché lui-même évolue, les consommateurs évoluent. Par contre, ça repose sur beaucoup d'agilité au sein du réseau, beaucoup de confiance et une capacité, en fait, à ce que le réseau survive à des mises à l'épreuve dans la relation franchiseur-franchisé, parce que ça crée de la confusion, ce genre de projet. Et en fait, ça met en tension la relation de confiance. On ne peut pas empêcher un franchisé à Alès, pour reprendre l'exemple de Kevin, je ne connais pas le franchisé d'Alès, mais bon, bref, de se dire, mais pourquoi ils font ça ? Voilà. Et ça, c'est assez logique. Il faut de la pédagogie derrière, il faut expliquer les doutes aussi que le franchiseur peut avoir lui-même. Il faut retravailler le lien, retravailler la confiance, et puis traiter les objections en local. Donc, c'est beaucoup d'énergie du côté du franchiseur pour faire passer ce genre de projet. Ça nous ramène aussi au côté juridique, c'est que sur les DIP, ces projets-là doivent être intégrés. Ces questions d'évolution du marché doivent être intégrées, parce que derrière, les candidats qui arrivent doivent être mis en fait à niveau, au goût du jour. Voilà, au goût du jour d'une enseigne qui n'est pas historique, qui restera mono-enseigne, avec un franchiseur qui a une enseigne et qui la développe, point, ce qui est la stratégie en première intention, mais plutôt d'une perspective multi-franchiseur avec plusieurs enseignes, des positionnements différents et la possibilité pour un candidat à la franchise, pourquoi pas, d'avoir deux concepts différents, mmh. un concept de centre commercial et un concept de centre-ville. Ces sujets-là, en fait, c'est important qu'on les retrouve dans l'incubation des nouveaux, mais aussi que ce soit traité auprès des anciens. Ça se fait rarement sans difficulté, sans crise de doute, sans crise de confiance, sans certaines prises d'ego, ça va de soi. Donc, c'est de la conduite du changement avec toutes les réticences qui vont parfois avec. Donc, il faut des capitaines accrochés, convaincu que c'est la bonne version et qui ne lâche pas malgré les vents contraires, quoi.
Après,
voilà.
Pour nuancer,
beaucoup d'animation, beaucoup d'assistance.
Pour nuancer, moi, tous les franchisés que j'ai pu avoir au téléphone n'étaient pas contre le concept. Ils déploraient juste que ça leur ait été présenté un peu sur ce, que tout était fait. Et après, ils attendent de voir les chiffres. Voilà, ils attendent le terrain.
Exactement.
Voilà.
Bah, ils attendent de voir les chiffres. Après, ils se posent la question de l'exclusivité territoriale, la cohabitation sur le territoire, de la possibilité d'avoir la primauté sur ma zone ou pas. Tous ces sujets-là, en fait, c'est des sujets qu'il faut traiter étape par étape, en essayant toujours d'avoir un temps d'avance sur le réseau, c'est extrêmement important. Mais le réseau, enfin, les réseaux sont pas contre l'évolution, mais après, ça les met dans des zones d'inconfort où ils vont se poser la question de savoir est-ce que je vais être bénéficiaire ou est-ce que je vais être déficitaire. Mmh. Et derrière, est-ce qu'on va m'abandonner ou est-ce qu'on va me donner les moyens de conforter mon activité de chef d'entreprise sur ma zone? Et c'est tout à fait légitime qu'un franchisé se pose ce type de questions. Il a quand même mis son aventure entrepreneuriale dans les mains, quelque part, d'un franchiseur et d'une marque. Donc, c'est légitime.
Et c'est aussi, pour en revenir à cet aspect d'évolution de ce que j'appelle un peu de crise de croissance, que c'est une manière positive de voir la chose, mais cette notion de communication qui doit être redoublée parce que, bah, je dirais que quand l'horizon est tracé, quand le chemin est clair pour tout le monde et qu'il n'a pas bougé depuis 10, 15 ans, alors avec quelques ajustements évidemment, mais je dirais qu'il n'y a pas eu un gros repositionnement, bah, tout le monde sait à peu près où on va. Dès lors que on commence à se dire attention, on va virer un peu de bord, accrochez-vous un petit peu, c'est dans une démarche positive, mais soyez préparés, on se doit de doubler l'aspect communication et au cas par cas. Et c'est là encore une réflexion que l'on a, et c'est une prise de conscience que chacun au niveau du siège a pu faire, on le sait, mais pour autant la structure fait que on a parfois du mal, je l'avoue, hein, et il faut connaître ses torts, à passer du temps de manière quasi psychologique avec chaque franchisé, comprendre ses besoins. Chacun va avoir une imagination débordante pour aller penser à ce qui va pouvoir lui être défavorable. Et puis on a un réseau qui commence à avoir 20 ans, donc il y a des franchisés qui ont une vingtaine d'années d'historique, d'autres qui sont arrivés il y a 2-3 ans. Vous avez ceux qui ont un mindset très novateur, très innovant, qui à la moindre initiative saute dans le train en disant « chouette, je veux en être ». Et puis, vous avez des gens qui, je le disais tout à l'heure, mais on est un réseau qui marche bien, donc vous avez des gens qui fonctionnent très bien depuis 20 ans. Pourquoi en changer ? Et là, c'est à nous d'accompagner. Donc, vous avez raison, Sylvain, c'est une démarche qui est une conduite de changement et qui, parfois, amène à devoir dire à des franchisés une chose terrible, c'est « on ne sait pas ». Hein, on fait au mieux, on fait au mieux, on s'adaptera, ayez confiance, on sait à peu près où il faut aller, mais de manière exacte et comment on va y aller, c'est quelque chose qui forcément va devoir s'adapter. Et à la limite, vaut mieux avoir ce raisonnement de se dire on est prêt à s'adapter que d'être psychorigide et se dire c'est comme ça qu'on va y aller avec perte et fracas, quoi.
Je vous remercie à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du réseau à la une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode consacré cette fois-ci à l'enseigne Bio Burger. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio, Apple, Google ou encore Spotify. À bientôt.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.